France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Cyril Dion, auteur, réalisateur et militant écologiste.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
On croit connaître Cyril Dion, son nom à tout le moins nous est familier. Et si l'on réfléchit, on se rappelle que c'est un écolo militant, camarade de Pierre Rabhi, avec qui il avait fondé le mouvement Colibri. Ensuite, bien sûr, on n'est pas sans savoir que Cyril Dion est cinéaste, qu'avec la comédienne Mélanie Laurent, ils ont réalisé le documentaire Demain, qui a eu de nombreux spectateurs de par le monde, ainsi que le film Animal, ce qui n'est déjà pas si mal pour un jeune homme de 40 et quelques printemps, surtout si l'on tient compte du fait que pendant ce temps, il a également voyagé aux quatre coins du monde, publié plusieurs albums pour enfants, des essais et un roman, participé à moult débats, colloques et festivals, a été l'une des forces motrices de la Convention citoyenne pour le climat et a osé confronter le président Macron sur l'insuffisance de ses réponses. Enfin, si comme moi on connaît Cyril Dion d'un peu plus près, on sait qu'il a une belle voix de basse, aime chanter, fréquenter les musiciens, connaît plein de chansons en anglais et en français, mais écrit également ses propres chansons et que par ailleurs, il est poète. Reprenons notre souffle. La poésie, ce n'est pas une chose de plus dans la longue liste de ce que sait faire Cyril Dion. Non, les poèmes sont lui. Depuis qu'ils ont quitté leur enfance de l'espèce pour se mettre à parler, les humains se demandent avec angoisse que faisons-nous sur cette planète, qui nous a mis là, pour quelles raisons. Vu qu'à ces questions n'existe aucune réponse, le reste peut se déclencher. Les pensées tanguent, mais sont scandées par des cœurs qui répètent, reprennent, reproposent des bribes de langage en guise de berceuse ou de refrain. Je suis un, je suis ça. C'est parce qu'il est musicien aussi que Dion sait faire cela. Nancy Houston, préface de La Route sans fin, 2024. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour Mathieu Vidard.
Ça a de la gueule de se faire tirer le portrait par Nancy Houston quand même. Hein,
c'est vrai qu'en écoutant là, je me suis dit c'est pas si mal.
De poésie nous parlerons dans cette émission. On vous entendra même en live tout à l'heure, accompagné par votre camarade Sébastien Hogg pour annoncer un concert rencontre. Ce sera le 24 octobre prochain au Cabaret Sauvage à Paris. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, Cyril, c'est parce que sortent, attention, aux éditions Actes Sud, Lutte Enchantée, vos chroniques qui nous ont accompagnés toute l'année dernière dans cette émission. Nous ne sommes pas peu fiers que votre prose hebdomadaire ait trouvé un prolongement dans les pages de ce petit livre, sous-titré « Comment garder espoir et lutter dans un monde qui bascule ». Tout ne serait donc pas foutu, Cyril Dion ?
Bah, tout n'est jamais foutu. Ce que je dis souvent quand on me dit « est-ce que vous avez encore de l'espoir ?» Et je dis bah, « et vous, est-ce que vous avez encore de l'espoir ?» Parce que vous vous levez tous les matins en sachant que vous allez mourir un jour, que c'est, l'expérience humaine, c'est quand même un truc qui va mal finir. Et pourtant, vous vous dites pas tous les matins, comme Woody Allen, « tout est foutu, ça sert à rien, je vais pas me lever ». Au contraire, on se dit bah, « comme l'existence est courte, il faut lui donner de l'intensité, il faut lui donner du sens », comme disait Nancy Houston. Mm-hmm. Et je pense que face à la catastrophe écologique, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, c'est la même chose.
Et quand, justement, on a commencé à vous poser cette question, à partir de quand d'ailleurs, dans votre parcours, vous avez réalisé que le monde était quand même drôlement mal barré en général? Quand est-ce que vous êtes sorti de votre innocence ou de vos illusions?
Je pense que c'était à l'adolescence. J'aimais pas du tout l'école, comme pas mal d'adolescents. Mmh. Et quand je regardais les adultes autour de moi, j'avais l'impression que ce truc n'allait jamais se terminer. C'est-à-dire que je me disais, bon bah ok, je tiens le coup, je vais jusqu'au bout de l'école, puis après ça ira.
C'est long les journées de classe hein, quand on n'aime pas
ça.
L'école. Hein.
Et je regardais les adultes, je les voyais aller au chagrin, comme disait Renaud, au boulot. Ils n'avaient pas l'air d'être beaucoup plus réjouis que moi, et je me suis dit, mais il y a une arnaque dans cette histoire, ça va jamais s'arrêter en fait. Ça va s'arrêter, je sais pas, au moment de la retraite. Et donc je crois qu'à ce moment-là, je me suis fait une espèce de promesse de me dire... je veux que ma vie ait du sens, je veux faire des choses qui me passionnent, je veux pas rentrer dans cette espèce de... ce que Henri Miller appelait le cauchemar climatisé, j'ai envie de rentrer en sécession par rapport à tout ça.
Mmh. Donc ça, c'était la phase de création, on va dire, et puis le moment précisément où vous avez réalisé quand même que c'était un sacré bordel sur la planète. Vous en
bah,
souvenez, ça
après,
ou pas?
Après, ouais, il y a eu plusieurs moments, mais... quand j'avais 22 ans, j'ai commencé à organiser des congrès israélo-palestiniens. Donc là, en termes de bordel, c'est pas mal. On s'en rend compte un peu en ce moment. Donc on a organisé des congrès pour essayer de créer du dialogue entre les deux parties. Ça a très bien marché d'ailleurs, comme vous pouvez le voir.
Ouais.
Ne me remerciez pas. Et ensuite, on a organisé des congrès d'imams et de rabbins pour la paix. Donc on faisait venir tous les plus grands leaders juifs et musulmans du monde entier. On les mettait dans un hôtel pendant 4 jours et puis on regardait ce qui se passait. Ça aussi, c'était pas mal. Et après 5 ans à faire ça, j'étais un peu désespéré de la politique, un peu désespéré de la nature humaine aussi. Et on m'a proposé de créer un mouvement autour des idées de Pierre Rabhi. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à la question écologique. Et là, ça a été un peu le choc brutal. C'est-à-dire que je me suis dit, comment est-ce possible que la situation soit si grave et que personne n'en parle ? C'est-à-dire que j'écoutais les infos, je regardais la télé, puis tout le monde continuait à faire comme si de rien n'était. Et ça, ça a été une espèce de schisme dans ma tête. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à tout ça, à aller voir des conférences, à lire des bouquins, à rencontrer des gens, à regarder des documentaires, et à chercher à transcrire ce que je comprenais de la façon la plus intelligible possible, en me disant si les gens comprennent ce qui se passe, ils vont bien faire quelque chose.
Donc il y avait un souci de vulgariser le propos, quoi, finalement, déjà, pour vous ?
En fait, c'est vraiment une compétence que j'ai découverte au fur et à mesure de ma vie. C'est-à-dire que j'étais toujours le mec qui expliquait les trucs compliqués aux gens qui n'avaient pas compris en essayant de le faire avec des mots simples.
Ouais.
Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir de la reconnaissance pour ça. C'est-à-dire que les gens me remerciaient en me disant « Dis donc, super, j'avais pas compris, merci
ouais. ». Mais c'est pas une des clés majeures, ça, aujourd'hui, à la fois pour faire comprendre les messages, et puis ce qui explique aussi que certaines personnes soient plus écoutées que d'autres, quand même, non ?
Je pense que c'est une clé, mais au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que ça suffisait pas. C'est-à-dire que même si vous êtes capable de transcrire des rapports scientifiques ou avec le plus de simplicité possible, il y a quand même toujours quelque chose qui manque, qui est l'émotion. C'est ce que c'est l'émotion qui... Enfin, étymologiquement, j'enfonce une porte ouverte, mais l'émotion, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous met en mouvement. Donc c'est aussi pour ça que je suis retourné à la création, qui était mon premier métier, puisque moi j'étais comédien, j'ai commencé à écrire quand j'avais 13 ans des pastiches de romans policiers assez lamentables que corrigeait ma prof de latin. Un jour j'avais écrit, elle était mignonne avec moi, parce que j'avais écrit « Elle gisait pendue ».
Ce qui n'est pas facile, hein.
Non, c'est pas facile.
C'est pas facile.
Il y a un truc qui physiquement n'est pas tout à fait évident. Et donc c'était ça, moi j'avais besoin de créer, j'ai toujours eu besoin de créer. Et j'ai toujours eu besoin de... à travers l'art, d'exprimer des choses qui ne trouvaient pas de place dans ma vie. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de la poésie à 16-17 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à militer, je me suis rendu compte que, de la même façon, les gens avaient besoin d'être touchés dans leur vie, que ça raconte quelque chose. Pour moi, il y a un truc qui ne va pas, là, dans la façon dont on milite, entre guillemets. C'est que s'il y a autant de personnes qui disent « les écolos sont dogmatiques, ils nous donnent des leçons, ils veulent nous apprendre comment on doit vivre », c'est que d'une certaine manière, ils se sentent pas concernés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que ça parlait de leur vie, que c'était pas simplement les écolos qui, dans une espèce de lubie ou dans une vision du monde très dogmatique, voulaient que les choses changent. C'est simplement que c'est des personnes qui alertent sur quelque chose qui concerne tout le monde, dans sa vie la plus quotidienne.
Et ça, c'est justement un problème aujourd'hui, hein, dans l'acceptation même de l'idée de l'écologie.
Mais c'est un énorme problème, c'est ce que je disais dans la première chronique, je me souviens, ouais. Il y a un peu plus d'un an, quand je me suis retrouvé ici. Je racontais qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'interpellaient dans la rue en me disant « ou merci », avec l'air de dire « merci mon gars de continuer à faire ça parce que tu le fais pour nous, et puis nous, comme ça, on peut continuer à vivre tranquille ». Ou des gens qui me disaient « ouais, vous les écolos, vous voulez ci, vous voulez ça », et je disais dans la chronique « mais... c'est pas notre problème. Je veux dire, on va pas sauver le climat pour me faire plaisir ou pour faire plaisir aux écolos. C'est pas mon Gulfstream, c'est pas mon climat, c'est pas ma barrière de corail. » Et donc, je pense qu'il y a un enjeu, et dans une autre chronique, je disais ça, je disais peut-être que la meilleure façon de sensibiliser à l'écologie, c'est de parler d'autre chose que d'écologie. C'est de dire, aujourd'hui, est-ce qu'on a envie qu'il fasse 45 degrés l'été ? Aujourd'hui, est-ce que ça nous va qu'il y ait... suivant les chiffres, entre 50 et 100 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air. Est-ce que c'est pas ça le problème de sécurité, par exemple ? On parle toujours de la sécurité, c'est l'extrême droite et la droite qui ont repris cette thématique, mais on n'en parle jamais sur le volet sécurité sanitaire. Est-ce que vivre en sécurité, c'est pas être sûr que dans l'eau qu'on va boire, il n'y a pas de polluants éternels, de pesticides. Est-ce que c'est pas être sûr que l'air qu'on respire va pas nous donner des maladies cardiovasculaires ou des cancers? Est-ce que c'est pas être sûr que, bah justement, les villes dans lesquelles on va habiter vont pas être tellement surchauffées qu'on va risquer d'être déshydraté, que des gens vont mourir de chaleur? C'est ça la sécurité. Et donc, repartir des besoins, repartir de notre vie de tous les jours en se demandant, bah, quelle est la meilleure façon pour manger, pour se déplacer, pour organiser la cité? C'est peut-être plus efficace que de dire il faut faire ci, il faut faire ça.
On y reviendra évidemment dans un contexte où l'écologie subit les coups de boutoir de nombreuses instances et de nombreux personnages aussi. C'est un moment aussi très particulier qui est fait de montagnes russes d'ailleurs, l'écologie. On pourrait y revenir avec vous. Cyril Dion, on aime bien rembobiner le film un petit peu de la vie de nos invités pour comprendre les racines de l'engagement. C'est pas juste pour aller dans l'intimité des personnes que nous recevons, mais c'est pour comprendre justement comment ils ont nourri, comment ils se sont construits par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous qui avez grandi au Vésinet, commune verdoyante de 17 000 habitants, qui est considérée comme la ville la plus bourgeoise des Yvelines, avec le revenu fiscal des ménages qui est le plus élevé du département.
Les Yvelines, c'est déjà assez bourgeois en soi.
Comment décririez-vous le milieu dans lequel vous avez été formé finalement?
Bah, un jour j'ai vu un documentaire sur Arte, sur le Vésinet, qui disait « Le Vésinet, ghetto de riche ». Donc je suis quand même né dans un milieu hyper privilégié, hyper bourgeois, très catholique. J'étais enfant de cœur, assez longtemps.
Vous faites la grimace en le disant.
Bah, je le dis pas trop fort quand même, parce que j'étais enfant de cœur entre 11 et 15 ans. Donc
mais c'est
ans,
grâce
ça
à ça
peut se comprendre,
vous...
mais à 15 ans... Bon.
C'est grâce à ça que vous chantez aujourd'hui peut-être aussi, quand même. Hein. Donc, ne reniez pas.
Faudra pas dire ça à Sébastien Hoc tout à l'heure, je suis pas sûr que ça lui fera plaisir. Mais non, donc je suis né dans un milieu qui était assez traditionnel, finalement.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents?
Alors, mon père faisait de la gestion de patrimoine, il était banquier. Mais c'était pas exactement ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire que mon grand-père était un ami d'enfance de Mitterrand. C'est un peu un hasard, hein, mais ils étaient à l'école ensemble en Charente.
Et à Cognac.
Et exactement. Et mon père, assez tôt, a voulu faire de la politique. A été attaché parlementaire et voulait être diplomate. Et puis ma mère voulait pas voyager, donc il a dû changer son fusil d'épaule et il s'est retrouvé dans la banque. Et donc, je dis toujours pour rigoler, son métier, c'était de rendre les riches plus riches. Donc, ouais. C'est vrai que quand j'ai commencé à m'engager, ça a été un vrai sujet de conversation entre nous. Et je pense que j'ai vécu un moment de rupture très fort avec mon milieu. C'est-à-dire que à l'adolescence, quand j'ai commencé à arrêter justement d'être enfant de cœur et que c'était plutôt la rencontre avec le rock'n'roll, avec tout ce qui va avec, je ne donnerai pas de détails... Je me sentais complètement étranger à l'endroit où je vivais.
Ouais. Mais vos parents étaient des bourgeois de droite ou des bourgeois de gauche?
Non, c'était des bourgeois de gauche. C'est plutôt la gauche caviar.
Ouais. Donc c'est ça.
Non, mon père a toujours été à gauche. Il militait au PS, il avait collé des affiches. Je me souviens quand j'étais gamin, il se battait avec les militants du Front National sur les points de collage des affiches. Ma mère a travaillé au PS aussi, était secrétaire du PS du temps de Jospin. Elle me racontait toujours qu'elle était enceinte de moi quand qu'elle travaillait au journal du PS. Donc en se disant, il y a peut-être des trucs qui ont infusé.
Ouais.
Et à la fois, c'est intéressant parce que quand on avait des conversations politiques avec mon père particulièrement, mon idée de la gauche était parfois un peu plus, je sais pas s'il faut dire radicale ou plus exigeante que ce que je voyais que le PS pouvait être devenu, par exemple.
Et alors donc, ce désir de sortir un peu de cette bourgeoisie, hein, de ce milieu de riches qui enrichit les riches, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi il y a eu ce déclic? Vous auriez pu être un fils de bourgeois, comme plein d'enfants de bourgeois.
Profiter de tout ça, j'ai travaillé dans la banque moi aussi.
Ouais.
J'aimais pas l'école, mais j'aimais pas être un enfant non plus, parce que j'avais l'impression que j'avais pas de pouvoir sur les choses. Donc j'avais vraiment hâte de devenir un adulte pour pouvoir choisir. Et j'aimais pas trop le milieu dans lequel j'étais. Je me sentais vraiment étranger. Je sais pas comment expliquer ça. Et je sais pas d'où ça vient. Mais j'avais l'impression que j'étais pas à ma place.
C'est la vie est un long fleuve tranquille. Vous avez peut-être été échangé à la naissance, en fait.
je ressemble beaucoup à mes parents, quand même. Et puis, il y a plein de choses super qui m'ont transmises aussi. Mais je me sentais pas à ma place. J'aimais pas cette façon de réfléchir. J'aimais pas cette façon d'organiser la vie. Et très rapidement, justement, quand j'ai eu accès à autre chose, et je le raconte effectivement dans La route sans fin, qui est ce petit bouquin de poésie au Castor Astral, je raconte qu'un jour, avec mon copain Brice, à 14 ans, on découvre les Doors. On voit le film, ça nous retourne le cerveau, on croit qu'on va devenir des rockers avec une guitare et en buvant trois bières et en écoutant Jim Morrison à fond. Et au-delà de tout le cliché, comme j'étais passionné de Jim Morrison, j'ai commencé à lire sa poésie, je me suis rendu compte qu'il aimait Kerouac, donc j'ai lu Kerouac, j'ai lu Sur la route, ça a été une espèce de déflagration. J'ai lu Rimbaud, parce que je me suis rendu compte qu'il aimait Rimbaud, j'ai lu Une saison en enfer, et là j'ai eu l'impression de trouver une espèce de famille. Je me suis dit, mais c'est ça ma famille, c'est ça les gens auxquels j'ai l'impression que je ressemble à l'intérieur de moi. Et j'ai envie de suivre cette route-là. Et alors évidemment, pour ceux qui ont lu Sur la route, ça ressemble pas beaucoup au Vésinet. C'est pas exactement la même
chose. C'est plus Roots, on va dire. C'est plus Roots.
C'est plutôt des gens qui décident...
Il se passe des choses plus intenses, peut-être.
Qu'on ne vit pas beaucoup dans les rues du Vésinet. Ouais.
Donc, Cyril Dion, ado, c'était rocker professionnel plus tard, hein. C'était ça votre rêve, finalement?
Non, mais on faisait de la musique, on fumait des joints un peu. Bon, et puis, j'étais rebelle, mais au sens... je me sentais vraiment révolté contre un monde dans lequel je me sentais enfermé, profondément enfermé. Et je pense que cette idée d'ailleurs de sortir d'une forme d'aliénation traverse vraiment tout ce que j'ai fait depuis ce moment-là, que ce soit les films, les livres, la poésie. Et donc j'ai passé mon temps à essayer de comprendre comment je pouvais sortir de cette espèce d'aliénation dans laquelle on m'avait plongé sans me demander mon avis. Et c'est d'ailleurs, enfin pour faire un petit bond en avant, un petit flash forward comme on dit, c'est ça qui m'a touché beaucoup chez Pierre Rabhi par exemple. C'était pas vraiment le côté écolo, c'était pas les bretelles, les sandales, c'était le côté je suis aliéné dans un monde qui m'a vendu la modernité comme quelque chose de libérateur et qui ne l'est pas. Mmh. Et... J'essaie de reprendre l'espace de ma liberté et de créer un monde cohérent. Donc lui, c'est passé par le retour à la Terre. Moi, ça passait plus par le rock, par la poésie, par la création. J'ai voulu être comédien très vite. En me disant, j'ai l'impression que par l'art, là, il y a un petit chemin. Il y a une espèce de petite porte par laquelle je pourrais passer qui me permettrait de pas être l'esclave que j'ai l'impression que je deviendrais si je jouais le jeu de ce milieu dans lequel je suis.
Le théâtre, le cinéma, le documentaire, les livres et le militantisme, tout ça c'est votre vie. Cyril Dion, vous êtes aujourd'hui notre invité au carré.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Il y a 3 ans, Cyril est venu me parler de cette étude, alors que j'étais encore enceinte. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement, où des villes entières pourraient être englouties par les océans. Elle suggérait qu'une partie de l'humanité pourrait disparaître d'ici la fin du siècle. Alors on a décidé de réunir une équipe d'amis travaillant dans le cinéma. On leur a raconté le contenu de cette étude. Ils avaient presque tous des enfants, n'étaient pas tous écolos ni militants, mais aucun ne voulait rester les bras croisés devant une telle nouvelle. On voulait tous faire quelque chose.
La voix de Mélanie Laurent, l'ouverture de Demain. Nous sommes Cyril Dion en 2015. Vous êtes notre invité au carré cet après-midi sur France Inter. Sort donc à cette date votre documentaire qui va vraiment être une balise finalement dans votre vie. Vous dites que ça a tout changé pour vous. C'est aussi, je pense, une balise pour pas mal de gens qui ont vu ce documentaire. Quand vous dites que ça a tout changé, concrètement, ça veut dire quoi en fait ?
Ça veut dire qu'en 2012, j'ai fait un burn-out qui était une sorte de burn-out militant. À l'époque, je dirigeais Colibri, donc le mouvement qu'on avait créé avec Pierre Rabhi. Je dirigeais la collection du domaine du possible chez Actes Sud, un magazine qui s'appelait Kaizen. J'étais déjà en train d'écrire ce film et j'étais dans cette idée qu'il fallait en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, que ce serait jamais assez. Dans une espèce de confusion aussi où j'essayais de réparer plus ou moins mes propres blessures en réparant le monde et c'est n'essayez pas chez vous, ça ne marche pas. Mmh. Et au bout d'un moment, je me suis effondré. Et quand je me suis effondré, j'ai compris. Je me souviens, j'étais à un concert de Rufus Wainwright à la Philharmonie à Paris. C'était une carte blanche de Marianne Faithfull qui lui avait donné la scène. Il était tout seul au piano et je le regardais. Et pour ceux qui connaissent Rufus Wainwright, il a une sorte de liberté sur scène qui est absolument fabuleuse. Et je le regardais et je me disais dans ma tête, si je recommence pas à créer, je vais mourir. J'y arriverai pas. Et donc je suis sorti du concert, j'ai fondu en larmes et j'ai dit à la mère de mes enfants à ce moment-là, il faut que je me remette à créer. J'ai démissionné de Colibri, de Kaizen, donc j'ai abandonné 2 CDI. J'avais pas un sou en poche, j'avais jamais fait de film. Et je me suis dit, allez, je vais essayer de faire ça. Et c'était vraiment un pari. Le pari de me dire, si je fais quelque chose qui me correspond, qui me passionne, peut-être que la chance me sourira. Et ce film a tellement marché que ça a changé ma vie parce que Tout d'un coup, j'ai gagné de l'argent, alors qu'avant, j'en avais jamais. Tout d'un coup, je me suis mis à être connu, reconnu dans la rue. Des gens venaient me voir en me disant « Mais c'est toi le gars là, qui a fait le film ? Mais attends, c'est génial !» Des gens m'arrêtaient pour me dire « Vous avez changé ma vie !» Et puis, tout d'un coup, on me laissait faire d'autres choses. On me disait, vous voulez faire un roman? Bien sûr, faites un roman, monsieur. Vous voulez faire de la poésie? Mais il n'y a aucun problème. Mais bien sûr.
Tout est possible.
Mais oui. Et là, c'était un monde qui s'ouvrait pour moi.
Et d'ailleurs, vous le racontez dans une de vos chroniques, qui paraît chez Actes Sud, La lutte enchantée, c'est votre actualité, Cyril Dion. Vous aviez fait une chronique là-dessus, justement, à la fois sur le burn-out et puis sur le besoin de créer pour sortir de l'impasse. Donc, c'est ce que vous avez fait avec ce film, dans l'idée aussi de proposer d'autres récits. Il y avait déjà ça aussi derrière Demain, c'était inventer autre chose.
C'était complètement ça. En fait, moi, j'ai fait le film que je voulais voir au cinéma et le film qui, pour moi, n'existait pas. C'est-à-dire, très rapidement, je me suis dit, mais il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à essayer de mobiliser les gens sur l'horreur du péril écologique. On les déprime avec un nombre de faits incalculables qui nous paraissent en plus tellement atroces qu'on ne sait pas très bien ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Et jamais on leur propose un horizon. Jamais on leur dit, mais en fait, ça pourrait être vachement mieux si on créait un monde plus écolo. Et ça pourrait ressembler à ça. Et moi, je me disais, j'aimerais bien que quelqu'un me raconte cette histoire. Et comme personne ne le faisait, je me suis dit, bah, je vais essayer de la raconter moi-même.
Et ça vous a valu un César l'année suivante, donc en 2016. On va écouter justement l'annonce de votre prix et votre réaction.
Et le César du meilleur film documentaire est attribué à...
Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent.
La magnifique aventure en salle de ce documentaire, déjà plus de 700 000 spectateurs, trouve son apothéose ce soir avec ce César, le deuxième pour Mélanie Laurent, après celui de Meilleur Espoir en 2007 pour Je vais bien, ne t'en fais pas, et le premier pour Cyril Dion.
Merci d'avoir fait ça, d'habitude l'écologie tout le monde s'en fout, et là vous avez vraiment réparé quelque chose à l'intérieur de moi. Je voudrais vraiment énormément remercier tous les gens qui ont cru depuis le début qu'on pouvait faire un documentaire sur l'écologie, sur l'économie, sur la démocratie, et que ça serait pas chiant, et que des gens iraient le voir en salle. Et particulièrement Mélanie, qui a cru dans ce projet dès la première seconde, et je te remercie énormément d'avoir fait ce voyage avec moi. Vraiment beaucoup.
Voilà, 2016. Qu'est-ce que vous ressentez en réécoutant? Vous revoyez derrière votre pupitre face au public des Césars, hein?
Je me dis que je... J'étais très ému, je sens que ma voix par des rails.
Un peu cassé, oui.
Enfin, c'était une émotion incroyable. C'était une émotion incroyable déjà de reconnaissance de notre travail. Mais en fait, moi, ce qui me passait par la tête quand j'étais sur scène, là, c'est que je me disais, tous les gens qui font ce qu'on a montré dans le film, tous ces gens qui font de la permaculture, qui font des monnaies locales, ben, en fait, aujourd'hui, ils sont sortis de cette espèce de statut de radicaux, de marginaux, d'hurluberlus. Il y a une espèce de consécration du fait que ce qu'ils font a été couronné par un César. En fait, c'est eux qui l'ont eu. Bon, maintenant, on pourrait se dire qu'on a eu un petit retour en arrière, mais ça a duré quand même, ces 10 dernières années.
Il y a eu une effervescence, en fait.
Il y a eu
un
mouvement énorme. Après, on peut expliquer de façon assez circonstanciée pourquoi, aujourd'hui, il y a un retour en arrière.
Ouais.
Mais il y a vraiment eu une transformation dans la société malgré.
Donc 2015, d'ailleurs, c'est aussi la COP21,
ouais.
C'est à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a eu une décennie plutôt pas mal.
Oui, mais on a vu, là, 2018, 2019, 2020, il y a eu une sorte de flambée écologie, sur l'écologie qui s'est passée à la fois dans les urnes, qui s'est passée dans la rue, dans la presse. Le sujet est quand même devenu... Dans l'opinion publique, tout le monde s'est dit « Ok, il y a un problème, il faut qu'on fasse quelque chose, on reconnaît ça. »
Vous parlez encore de « réparer » d'ailleurs dans votre discours au César, c'est un mot qui revient souvent. Hein.
Ouais.
Pourquoi il revient autant d'ailleurs? Quand vous dites « Je cherche à réparer le monde » ou « Je cherche à me réparer, ça m'a réparé
». Bah, je ne le savais pas pendant longtemps et puis après je l'ai su, bon, j'en ai parlé plein de fois y compris sur France Inter, mais je me suis fait violer quand j'avais 6 ans par mon grand-père. Pas celui qui était ami avec Mitterrand, l'autre. Et je pense que j'ai toujours eu quelque chose d'un peu brisé. Et que ça a créé en moi, c'est ce que me dit ma psychiatre régulièrement, elle me dit « Vous avez fait un très bon usage de vos névroses, je vous félicite. » C'est que d'une certaine manière, maintenant, quand je vois un problème ou quand je vois quelque chose de cassé, c'est un élan assez naturel pour moi de me dire « Il faut que je trouve une solution, il faut que je répare. » Et je pense que je le fais parce que c'est un besoin intime, fondamental, pour moi. Mais que, comme me disait donc ma psychiatre dont je parle très souvent, j'ai réussi à en faire quelque chose qui puisse peut-être servir aussi à d'autres.
Ouais. Mais comment on trouve la force finalement de transformer ce drame en l'occurrence en quelque chose d'ouvert, de créatif?
Ben, pour moi, c'est opposer des dynamiques de vie à des dynamiques de mort. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose comme ça, c'est comme si on était profondément nié. C'est-à-dire que c'est comme si toutes les limites avaient été franchies et que la personne qu'on est avait été niée jusqu'au plus profond. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'une autre dynamique qui s'est plantée en moi à ce moment-là, c'est la nécessité d'être le plus vivant possible et de me prouver à moi-même et de prouver aux autres que j'étais vivant, que j'avais le droit d'exister. Et donc, de faire des choses qui soient les plus vivantes possibles et les plus intenses possibles. Et ça crée un effet d'entraînement malgré tout.
Et on arrive vraiment à se réparer d'un tel drame, Cyril Dion, ou pas ?
Alors, je vais encore vous raconter ce que me dit ma psychiatre. Elle me prenait une illustration qui est d'ailleurs proche de ce qu'on pourrait lire dans des manuels sur la biodiversité. Elle me dit, par exemple, vous voyez, quand il y a une souris qui rentre dans une ruche, les souris, elles peuvent pas faire, les abeilles peuvent pas faire sortir la souris. Et pourtant, la souris les met en danger de mort. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont se ruer sur la souris, la piquer de toutes les façons possibles jusqu'à ce qu'elle meure. Et ensuite, elles vont l'embaumer avec de la cire. Et ensuite, elles vont reprendre leur vie. Et d'une certaine manière, la souris sera toujours là. On ne pourra pas l'enlever. Donc c'est exactement comme ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu. Mais on peut essayer de le ranger au bon endroit, dans sa tête, dans son histoire, pour pouvoir continuer à vivre autour, sans que ça devienne quelque chose qui est paralysant. En revanche, si ce qu'on a vécu est toujours une sorte d'angle mort, c'est-à-dire que si on n'a jamais travaillé dessus, si on n'a jamais été dans une phase d'acceptation et de guérison par rapport à ça, alors cet événement continue à jouer son rôle traumatique, continue à décharger sa charge émotionnelle dans des circonstances qui, d'une certaine façon, ne s'y prêtent pas. C'est une psy qui s'appelle Alice Miller, qui a beaucoup travaillé sur les violences, notamment faites aux enfants, qui dit 100% des personnes agressées ne deviennent pas des agresseurs, mais 100% des agresseurs ont été agressés. D'où la nécessité de faire un travail sur soi qui permette de ranger les choses à leur place.
Et la poésie, ça aide, j'imagine, beaucoup aussi à réparer, hein. Écrire, en réciter, en chanter. Et c'est ce qu'on va faire avec vous tout de suite. Cyril Dion, vous êtes venu avec votre camarade Sébastien Hogg. Vous allez pouvoir rejoindre le micro. Bonjour Sébastien. On va brancher votre micro. Voilà. Avec un bel écho, puisque vous êtes derrière la guitare, à l'occasion d'un concert qui va se dérouler le 24 octobre, Cyril, au Cabaret Sauvage à Paris.
Absolument, avec plein d'invités. Ça s'appelle Résistance Poétique and Friends. Donc il y aura Arthur H, il y aura Voyou, il y aura Émilie Loiseau, il y aura Mishka Assayas.
Absolument.
Que les auditeurs connaissent bien. Qui est-ce que j'ai oublié encore ?
Barbara Carlotti. Qui sera
exactement.
Présente. Et donc vous chantez aussi ?
Eh ben, un peu.
Il y a plein de gens qui vont peut-être le découvrir aujourd'hui.
Je slam, je chante, effectivement. Et
Que vous allez nous chanter aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, on va chanter un morceau qui s'appelle « Tiens encore », qu'on a composé il y a 2 ans, pendant la grande mobilisation qu'il y a eu contre la 69. Et on était en Corse, on venait de faire un concert, et on avait des amis qui étaient sur place, qui étaient en train de se faire matraquer, gazer, encerclés par la police. On se sentait un peu impuissant, loin, et ça nous a inspiré ce morceau.
Ça s'appelle « Tiens encore », Cyril Dion et Sébastien Hogg, en direct, aujourd'hui, dans La Terre au Carré.
Peut-être que depuis toujours, il a fallu interposer nos corps. Peut-être que ceux dont l'argent achète le droit de disposer des rivières, des femmes, des pauvres, des terres ne comprennent que ça. Peut-être que le droit ne devient un droit que quand tu tords le bras de celui qui te tenait par le cou. Peut-être que dans certains cas, radical, ça veut juste dire normal. Si radical, c'est préférer les forêts au parking, les humains à la bourse en ligne. Si c'est défendre des champs contre les pelleteuses. Si radical, c'est dire je préfère qu'on nous vende moins de conneries que de me taper 35 degrés la nuit. Si radical, c'est refuser d'être un connard en costard qui vend sa dignité pour une montagne de dollars. Aujourd'hui, il y a des gens que j'aime assis sur un tronçon d'autoroute. Aujourd'hui, il y a des gens perchés sur des arbres pour ne pas qu'on les coupe. Et je ne sais plus bien ce qu'il faudrait faire pour que quelqu'un les écoute.
Tiens encore, tiens-moi contre toi.
Peut-être qu'à force de tout essayer, plus personne ne sait quoi faire et que ça rend des gens violents. Peut-être que moi non plus, je n'en sais plus rien. Et si on avait juste besoin de s'arrêter un moment et de réfléchir ?
Et si on avait été tellement gavé d'images, de pubs, d'histoires de croissance, de capitalisme, qu'on nous avait tellement répété qu'il n'y a pas d'autre option, qu'on ne sait même plus ce qu'on veut, ce qui est vraiment important, qu'on confond tout. Peut-être qu'on est rien que des ados qui cherchent des limites et qu'il n'y a personne pour être des adultes dans cette histoire. Ou peut-être que les adultes ont 17 ans, qu'ils sont cachés dans des corps d'enfants, qu'ils défilent dans les rues et que tout le monde s'en tape. Peut-être que l'amour est vraiment la réponse. Aujourd'hui, il y a des gens que j'aime qui se collent la main sur le bitume. Des gens qui arrêtent de manger et de boire pour dire on est déjà dans le mur. Et je ne sais plus bien ce qu'il faudrait faire pour qu'on arrête de leur taper dessus.
Tiens encore, tiens-moi contre toi, tiens encore, tiens-moi contre toi.
Que rien n'est vraiment foutu. Peut-être que toi, avec moi, ça change déjà beaucoup. Peut-être que les corps assiégés à partir d'un certain point se rebellent. Peut-être que la droiture des mots, un jour, fait chavirer les cœurs. Ou peut-être que c'est la droiture des cœurs qui, un jour, fait chavirer l'histoire. Tiens encore, brûle encore, crie encore.
Tiens-moi contre toi, tiens encore, tiens-moi contre toi.
Yeah.
Yeah.
Bravo Cyril Dion, Sébastien. Merci Sébastien.
Merci beaucoup.
Et donc rendez-vous le 24 au Cabaret Sauvage pour ce concert rencontre. Vous allez chanter,
ouais, en fait,
lire
on
de
va
la poésie,
avoir
discuter.
Un premier moment avec Mishka Assayas qui va faire une sorte de causerie sonore et chanter sur cette idée de résistance poétique. Donc ouais. Les chansons qui ont appelé à résister, qui ont aidé à résister dans l'histoire. On va faire un set de résistance poétique ensuite qui va avec les nouvelles chansons, le nouvel album. Et ensuite, on aura tous les invités dans un plateau commun où on va tous chanter et jouer ensemble.
Voilà, avec le public. Et donc, on peut réserver ses places.
Absolument.
Pour le Cabaret Sauvage le 24 octobre. C'est à Paris. Tiens encore, c'est donc le dernier extrait de l'album. Votre actualité, c'est aussi la sortie de La Lutte Enchantée, Cyril Dion. Vos chroniques pour La Terre au Carré, réunies dans un livre chez Actes Sud. Dans l'avant-propos, vous dites avoir ressenti pour la première fois l'ombre du défaitisme. c'était un sentiment vraiment nouveau, ça, pour vous ?
Ouais. En fait, je pense que c'est ce que je disais juste avant. Je pense que j'ai cette espèce de ressort qui fait que, quel que soit ce qui arrive, je sais pas, j'ai une sorte de pulsion de vie. Et là, je dois dire que l'élection de Donald Trump à la deuxième, plus la suite des législatives et le sentiment qu'en fait, même quand on se bagarre pour essayer de faire barrage à l'extrême droite, ça sert pas à grand-chose, ou en tout cas, pas autant qu'on voudrait. J'ai eu une sorte de ras-le-bol. Je me suis dit, là, ça fait 20 ans que je passe mon temps à essayer d'alerter les gens, à essayer de mobiliser, et tout ça pour ça. Et je pense que l'autre chose qui a fait que je me suis senti comme ça, c'est que et je pense que ça concerne toutes les personnes qui militent pour la question écologique. Se dire que ce qu'on disait il y a 20 ans est en train de se produire maintenant, c'est quand même un peu un constat d'échec. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, en même temps, ça repose pas que sur nos petits bras et nos petites épaules, mais on se dit, waouh, ok. Donc, en fait, tout ce qu'on a fait entre les deux, ça n'a pas empêché que ça se produise.
Ouais. Et vous êtes sorti de ce sentiment, justement, de ce sentiment de défaitisme, hein ?
Oui, enfin, ça dure jamais très longtemps chez moi. Mais pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon, il faut vivre. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc autant faire en sorte que la vie soit la plus cool possible. Mmh. Et autant faire en sorte de se battre aussi. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans des situations assez dramatiques. Je pense aux résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, bah voilà, enfin, celui qui allait saboter une ligne de train ou qui faisait passer des courriers, il se disait, bon, bah, c'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Et pourtant, il le faisait. Je pense qu'il y a quelque chose de... C'est ce que Corinne Morel-Darleux a écrit dans son petit ouvrage « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Il y a un truc de la dignité du présent. C'est-à-dire que, en même temps, je me vois pas faire autre chose. Ouais. Je me vois pas...
C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, hein, dans ce qu'on critique parfois avec les petits gestes. Elle dit, évidemment, c'est pas ça qui va changer le monde, mais c'est important aussi pour sa propre dignité.
Mais oui.
C'est-à-dire que structurellement, il faut que les choses changent. Mais soi-même, on a besoin aussi, pour rester droit et rester digne, de faire des petites choses quand même.
Absolument. Hein. Et puis, de toute façon, on n'a jamais vu une structure changer, c'est-à-dire on n'a jamais vu une révolution, je ne sais pas, quand l'esclavage a été aboli, sans que des personnes se dressent. Et pour qu'elles se dressent, il faut bien qu'elles soient animées par quelque chose et que ça se traduise dans leur quotidien.
Mais est-ce que la non-violence, ça peut fonctionner jusqu'au bout, si on veut vraiment changer les choses, Cyril Dion ?
En fait, je pense que ça dépend ce qu'on entend par la violence. Étymologiquement, la violence, c'est contre des personnes. Ce n'est pas contre des biens. C'est-à-dire que des personnes qui vont décider de faire de l'action directe, d'aller saboter un pipeline par exemple, ou d'aller casser des vitrines comme faisaient les suffragettes, ça c'est de la dégradation matérielle, on peut appeler ça du vandalisme, mais ça n'est pas de la violence. En revanche, c'est un rapport de force. Et ce à quoi je crois profondément, moi je suis profondément non-violent, même si je fais de la boxe et que je me prends parfois des marrons dans la figure, mais moi, je veux vivre dans un monde non-violent. En revanche, je suis intimement convaincu que c'est impossible de faire changer la société sans rapport de force, tout simplement parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, sont au pouvoir, qui n'ont pas envie que ça change. Ils n'ont aucune raison que ça change. Je veux dire, aujourd'hui, Bernard Arnault, aujourd'hui, Patrick Pouyanné, ils n'ont pas de raison qu'on aille vers un monde de la sobriété heureuse. Ce qui est pourtant, a priori, ce qui est totalement nécessaire. Réduire notre consommation de matière et d'énergie au maximum.
On va écouter la politologue Hélène Landemort, qui est professeure à l'université de Yale, que vous citez souvent. Elle témoignait dans Un nouveau monde de Thierry Robert.
La raison pour laquelle la démocratie est si faible dans la manière dont elle traite des problèmes climatiques, c'est que ce n'est pas une vraie démocratie. Les sciences politiques démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que la majorité des gens veulent et ce qu'ils obtiennent, sauf quand ils ont les mêmes préférences que les 10% les plus riches de la population. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est gouverné par des gens qui ne sont intéressés que par ce que veulent les corporations, en gros, quoi, et les gens qui payent des impôts et qui les financent. Et tant que ce sera le cas, je vois pas comment la question écologique va s'améliorer, parce qu'au fond, l'obstacle, c'est pas la démocratie, l'obstacle, c'est la plutocratie, l'oligarchie, et même, j'ai envie de dire, le capitalisme.
Hélène Landemort, et quels obstacles, Cyril Dion, quand même, hein, parce que combattre le capitalisme, ou les oligarchies, d'ailleurs, hein, qu'elles soient financières, politiques ou économiques, il faut quand même avoir une sacrée contre-force derrière, hein, si on veut réussir à faire quelque chose, non ?
Et c'est pour ça que je pense que le salut est dans la construction d'une véritable démocratie. On est en train de tourner un film avec Paloma Moritz qui s'appelle « Démocratie maintenant », justement là-dessus, parce qu'on croit profondément que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Il faut reprendre le pouvoir.
Mais ça veut dire qu'on n'est pas dans une vraie démocratie en ce moment ?
Non, on est dans une démocratie. Alors déjà, la démocratie telle qu'on la conçoit est très dégradée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 25% des gens qui vivent véritablement, enfin 28% qui vivent dans un pays plutôt démocratique et 72% de la planète qui vivent dans une autocratie. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Mais même dans nos pays qui sont plus démocratiques que d'autres, on voit bien qu'on ne va pas au bout. Il y a eu un grand débat pendant la Révolution française, notamment entre ceux qui plaidaient pour la démocratie représentative, typiquement la BCIS, et ceux qui plaidaient pour la démocratie directe, typiquement Rousseau. Seyès disait quand même, si la France était une démocratie, et elle ne saurait l'être, le peuple exercerait directement son pouvoir, or il l'abdique à ses représentants. Et Rousseau disait de son côté, en parlant des Anglais qui avaient déjà des députés, les Anglais pensent être libres, en réalité ils ne le sont que quand ils élisent leurs représentants, ensuite ils redeviennent des esclaves pendant 5 ans. Aujourd'hui, c'est ce que dit Hélène Landemort, notre bulletin de vote ne permet pas d'orienter véritablement les décisions publiques qui sont prises théoriquement dans l'intérêt général. Donc on a besoin de reprendre la main là-dessus. Donc ça demande des changements institutionnels qui demanderaient d'intégrer des mécanismes comme des assemblées citoyennes tirées au sort, comme des référendums, comme la possibilité peut-être de révoquer des élus, comme la possibilité de faire des budgets participatifs, en tout cas que chacune et chacun d'entre nous participe à construire la décision publique le plus souvent possible.
Est-ce que vous voyez un embryon, justement, de changement, d'une nouvelle forme, en tout cas, de démocratie, vraiment pour reprendre l'étymologie de démocratie ? C'est effectivement le pouvoir du peuple. Hein. Est-ce que vous voyez quelque chose qui est en train de s'installer ? Parce que depuis les Gilets jaunes, on n'a pas vu grand-chose, quand même. On voit bien qu'aujourd'hui, les manifs servent à rien, les grèves servent à rien.
Ouais.
Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ?
Ce sont des signaux faibles, pour le moment. En fait, il faut que les rapports de force soient à la fois dans la rue, mais qui soit dans les urnes, et puis surtout qui soit organisé stratégiquement. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi dans un certain nombre des chroniques du livre. C'est qu'on manque de stratégie. C'est-à-dire que si on se dit, ok, le problème, il est démocratique. Donc il faut changer les institutions. Il faut permettre aux gens de délibérer sur leur territoire pour décider s'ils veulent mettre des éoliennes ou non, s'ils veulent enlever les voitures des villes ou non, parce que c'est la seule façon dont ça marchera. Bah, si l'objectif, c'est de changer les institutions, il faut construire des rapports de force qui permettent de le faire. Donc ça veut dire qu'il faut aller dans la rue, ça veut dire qu'il faut faire la démonstration que ça marche en allant chercher des exemples qui existent un peu partout et qui le montrent. Et il faut qu'il y ait des gens qui se présentent aux élections et qui aient ça dans leur programme et qu'il y ait des gens qui votent pour eux.
Nancy Houston, on va boucler avec elle. Hein. Elle dit que le capitalisme est une fiction. Ça, c'est une idée puissante aussi pour refermer sur cette discussion-là.
C'est une idée qui me passionne depuis longtemps et c'est un de ces livres qui m'a beaucoup inspiré là-dessus qui s'appelle L'espèce fabulatrice. C'est que les humains passent leur temps à construire des fictions. C'est-à-dire que on regarde le monde à travers une petite fenêtre, on glane des éléments de la réalité et on essaye de leur donner du sens. Justement parce qu'on sait qu'on va mourir et que c'est insupportable, donc il faut qu'on donne du sens à ce qui nous arrive. Et ça, agréger des éléments du réel et essayer de leur donner du sens, ce sont des récits, ce sont des fictions. Et donc c'est très important de comprendre qu'on a des fictions dans nos vies, mais que les systèmes politiques ou les systèmes économiques ou les systèmes religieux sont aussi des fictions. Ça veut dire qu'ils ont été inventés par des humains, donc qu'on peut les changer, qu'ils ne sont pas immuables.
Merci beaucoup Cyril Dion. Donc on se retrouve le 24 octobre au Cabaret Sauvage à la Villette pour vos résistances poétiques. Votre actualité, c'est donc la sortie de La Lutte Enchantée, Comment garder espoir et lutter dans un monde qui bascule. C'est chez Actes Sud, vos chroniques de la Terre au Carré. Et puis je signale que pour les 10 ans, demain ressort également au cinéma, ouais, dans toute la France.
Ouais, le 8 décembre, on fait une grande soirée à Paris, mais ça sera retransmis un peu dans toute la France et vous pourrez organiser des projections, aller voir le film au cinéma, emmener les gens qui ne l'ont pas vu.